Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce soir encore, nous continuons dans notre série sur le modèle de Dieu pour la famille, en particulier pour les enfants. Ouvrez votre Bible à Éphésiens chapitre 6. La famille, comme nous l'avons dit tout au long de cette série, est le centre critique de la société. La famille est le terreau des compétences économiques, des compétences sociales, de la moralité, de l'éthique, des valeurs, des attitudes envers le travail, de la foi en Dieu, et ainsi de suite. Quand les choses vont bien dans la famille, la vie vaut la peine d'être vécue. Quand elles ne vont pas bien dans la famille, la vie s'écroule. Et de toute évidence, à notre époque et dans notre pays, la vie s'écroule. Les enfants sont en grande partie des personnes dévastées dans cette désintégration. Sans l'amour approprié, sans discipline appropriée, nous élevons, ou plutôt, nous n'élevons pas, une génération d'enfants troublés, colériques et amers. Ils ont été abandonnés par leur père à cause de leur carrière et par leur mère qui travaille. Les parents sont devenus égocentriques, occupés avec leur propre entreprise. Ils veulent seulement que les enfants ne gênent pas. Les enfants sont livrés eux-mêmes, en grande partie, souvent laissés dans le chaos du divorce, parfois nés illégitimement. Toutes ces choses les affectent tragiquement. La criminalité augmente à cause de cette génération mal aimée, fâchée et indisciplinée. Les jeunes sont égocentriques, égoïstes, hostiles, poussés par une convoitise incontrôlée qui s'intensifie à mesure que grandit cette génération d'enfants rebelles. La parole de Dieu, si claire sur la façon d'élever un enfant responsable et fidèle, est contre cela. Et ce n'est pas vraiment si difficile. En fait, nous pouvons comprendre clairement son plan. Il suffit de savoir si nous serons assez fidèles pour l'adopter. Je peux résumer tout ce que vous devez savoir sur l'éducation de vos enfants, tout ce que vous devez savoir sur le rôle parental, en quelques phrases seulement. Premièrement, enseignez-leur la vérité sur Dieu et sa loi, en tout temps. C'est la première phrase. Maintenant, cette phrase résume toutes sortes de choses à partir des Écritures, mais c'est un résumé. Enseignez-leur la vérité sur Dieu et sa loi en tout temps. Deuxième phrase. Exigez qu'ils obéissent à cette loi et punissez-les physiquement quand ils ne le font pas. Ces deux phrases résument ce que la Bible enseigne sur l'éducation des enfants. Enseignez-leur la vérité sur Dieu et sa loi en tout temps. Exigez qu'ils obéissent à cette loi et punissez-les physiquement quand ils ne le font pas. Nous nous souvenons de ce qu'il dit dans les Proverbes. La folie est liée au cœur d'un enfant, mais la verge de réprobation l'en chassera. Mais la verge de réprobation ne le chassera pas s'il ne comprend pas pourquoi il est réprimandé. Et il comprendra cela que s'il comprend la loi qu'il a violée. Comme nous l'avons vu la dernière fois, les enfants combattent la malédiction à l'intérieur d'eux. Ils combattent le système mondial à l'extérieur d'eux. Et de nos jours, bien sûr, ils luttent contre les dissolutions de ces derniers jours qui viennent sur eux. Ils ne doivent donc pas être livrés eux-mêmes, mais ils doivent être aidés à se développer en tant que personnes craignant Dieu. Et Éphésiens chapitre 6 nous donne un modèle simple. En fait, cela parle d'abord aux enfants. Et il dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, qui est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, et ensuite aux parents, et vous, père. » Et cela, certainement, englobe la responsabilité parentale du père et de la mère. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. En d'autres termes, instruisez-les au sujet du Seigneur et disciplinez-les à obéir à cette instruction. Il y a le modèle. Votre but, c'est que les enfants soient obéissants et honorent leur père et leur mère. Ils sont ceux à qui la bénédiction est promise. Maintenant, nous parlons toujours de la responsabilité des enfants, et c'est d'obéir à leurs parents et les honorer. Vraiment, c'est la sphère de toutes leurs responsabilités. Ils sont en dessous de leurs parents, et ils sont appelés à la soumission et au respect. Mais les enfants doivent apprendre à faire cela. Ils doivent être disciplinés pour le faire. On doit les forcer à obéir. On doit leur apprendre à respecter. Maintenant, quand vous voyez un domaine impropre ou absent dans leur vie, en ce qui concerne l'enseignement, quand il y a un grand élément manquant dans leur vie, vous pouvez leur donner des choses, vous pouvez leur offrir des jouets, vous pouvez leur donner un environnement, une maison confortable. Mais si cette partie de leur vie manque, ils n'apprendront pas la maîtrise de soi. Et s'ils n'apprennent pas la maîtrise de soi, ils sont sur la bonne voie pour être réprouvés et se dirigent vers la damnation. Vous voyez, les enfants sont déficients dans quatre domaines. Et vous pouvez trouver ces domaines simplement en vous souvenant de Luc 2, 52, où il est dit à propos de notre Seigneur Jésus. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Jésus grandit comme un petit enfant. Il a grandi dans quatre domaines, en sagesse et en stature. Cela signifie qu'il a grandi mentalement et physiquement, en faveur de Dieu et de l'homme. Cela signifie qu'il a grandi spirituellement et socialement. Ce sont les quatre catégories dans lesquelles les enfants sont déficients. Ils sont mentalement déficients. Cela signifie qu'ils ont des connaissances limitées et une sagesse limitée. Ils sont physiquement déficients. Ils ont une force limitée. Ils sont socialement déficients. Ils sont égoïstes et fiers. Vous savez, ils veulent ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. Et ils se mettent beaucoup en avant. Ils sont spirituellement déficients, en ce qu'ils sont pécheurs, et ne connaissent pas personnellement Dieu. Les parents doivent alors créer un environnement et un contexte qui exigent qu'ils se développent dans ces domaines. Mentalement, nous voulons les stimuler à connaître la vérité de Dieu. Physiquement, nous voulons les nourrir afin qu'ils puissent grandir. Socialement, nous voulons leur enseigner l'humilité et l'amour des autres, et à être des serviteurs. Spirituellement, nous voulons confronter leurs péchés et les amener à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'est la parentalité, c'est leur enseigner Dieu et sa loi en tout temps et faire respecter la loi en les disciplinant quand ils désobéissent. Maintenant, franchement, ce modèle donne des résultats merveilleux, et vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en psychologie pour comprendre cela. Vous devez quand même avoir un doctorat en psychologie pour comprendre comment contrôler les enfants qui ne sont pas formés de cette façon. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons tout un monde de psychologues, de sociologues et de psychiatres qui essaient de comprendre comment contrôler une génération d'enfants qui est hors de contrôle parce qu'elle n'a pas été élevée selon les principes de l'Écriture. Nous avons toute une génération d'enfants désobéissants dans notre nation. Ils sont fiers, égocentriques et indulgents envers leurs propres pulsions et convoitises. Nous avons des parents qui ont été programmés pour ne pas donner de fessée parce que le gouvernement a reclassé ses enfants comme maltraités. Des parents qui ne savent pas vraiment quel système moral leur enseigner. Des parents qui sont trop occupés pour s'embêter avec cela. Alors les parents essaient maintenant de s'occuper de ces enfants qui sont en colère parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour, l'affection et l'attention dont ils ont besoin. Qui sont incontrôlables parce qu'on ne leur a pas enseigné la maîtrise de soi. Les parents essaient maintenant de s'occuper de ces enfants de la manière la plus effrayante. La semaine dernière, j'ai pris le magazine Newsweek et l'article principal était un article sur le Ritalin, qui est un médicament donné aux enfants aujourd'hui. Et je veux vous partager une partie de ce que cet article dit parce que je veux vous montrer jusqu'où les parents vont pour essayer de prendre le contrôle de leur enfant quand ils ne le font pas selon la manière de Dieu. Voici comment commence l'article. C'est une autre matinée de médicaments à l'école primaire Winnebago, dans la banlieue moyenne de Chicago, à Bloomingdale. Trois coups résonnent avec précision sur l'interphone à 11h45. Le directeur, Mark Wagener, ouvre un classeur verrouillé et retire un contenant tupperware géant rempli de flacons de prescription en plastique. Près d'une douzaine d'élèves se précipitent au bureau pour leur Ritaline, une drogue qui calme les agités tout en stimulant le cerveau. Ces enfants, tous âges confondus, pour la plupart des garçons, ont reçu un diagnostic de TDAH, un trouble déficitaire de l'attention, avec hyperactivité, un trouble neurologique qui freine la concentration. Le médicament aide à accroître l'attention et à réduire l'agitation pour les enfants et les adultes atteints du TDAH. Il y a 10 ans, Wagener, le principal, ne se souvient que de deux élèves de Winnebago, alignés pour recevoir leur ritaline. Il ne sait pas combien d'autres prennent leurs médicaments à la maison ou par leurs propres moyens. Il n'y a pas de rayon X, pas de test sanguin, pas de tomodensitométrie pour déterminer qui a besoin de ce médicament. Et diagnostiquer le déficit de l'attention reste autant de l'art que de la science. Il n'y a pas d'étude définitive à long terme pour rassurer les parents que ce stimulant ne cause pas de dégâts cachés à leur enfant. Il faut du temps aux parents et aux enseignants pour s'asseoir et parler aux enfants, explique le docteur Sharon Collins, pédiatre à Cedar Rapids, en Iowa, où 8% des enfants seraient sous ritaline. Il faut moins de temps pour prendre une pilule. Je pense qu'elle voit la réalité. Il faut beaucoup de temps pour former un enfant, beaucoup moins de temps pour lui donner une pilule. Mais transformer votre enfant désobéissant, votre enfant qui n'a pas la maîtrise de soi, peut-être votre enfant en colère, parce qu'il n'est pas bien éduqué, en toxicomane, est-ce une solution? Certains élèves prennent leur comprimé à libération prolongée avant l'école. D'autres prennent leur dose en dehors des heures d'études. La montre d'un garçon est programmée pour émettre un bip pour le ritaline à 10h et à 14h. Comme beaucoup d'administrateurs, Wagener ne sait pas quoi faire. Les médecins sont-ils simplement en train de diagnostiquer plus souvent cette affection invalidante? En d'autres termes, pourquoi maintenant et pas quelques années en arrière? Est-ce que notre culture s'est détraquée à une si haute vitesse que nous avons perdu patience avec les bizarreries exigeantes de la formation de nos enfants? Le TDAH est devenu, et c'est intéressant, le trouble psychiatrique infantile numéro 1 en Amérique. Les experts estiment que plus de 2 millions d'enfants ont ce trouble. Selon une estimation par l'Institut national de la santé mentale, environ un élève dans chaque salle de classe en est atteint. Depuis 1990, le docteur Daniel Safer, de l'école de médecine de l'université Johns Hopkins, calcule que le nombre d'enfants prenant du ritaline a augmenté de 2,5 fois. Parmi les 38 millions d'enfants âgés de 5 à 14 ans, il rapporte que 1,3 million le prennent régulièrement. Les ventes de la drogue l'an dernier ont dépassé 350 millions de dollars. C'est sans aucun doute un phénomène américain. Le taux d'utilisation de ritaline aux États-Unis est au moins 5 fois plus élevé que dans le reste du monde. Il est si commun dans certains quartiers haut de gamme qu'un mini-marché noir a émergé dans une poignée de terrains de jeu et de campus, et que la vitamine R, comme on l'appelle, se vend de 3 dollars à 15 dollars par pilule. Certains enfants l'écrasent et le reniflent pour se droguer à un prix bon marché et relativement modeste. En passant, le ritaline est le nom de marque du médicament, connu sous le nom de méthylphénidate. Techniquement, c'est un stimulant qui semble augmenter le niveau de dopamine dans le lobe frontal du cerveau, où il régule l'attention et l'impulsivité. C'est un médicament puissant et que la Drug Enforcement Administration des États-Unis a classé comme une substance contrôlée, annexe 2, dans la même catégorie que la cocaïne. Les groupes de parents font maintenant pression pour alléger les restrictions sur le ritaline, pour éviter les visites mensuelles aux médecins pour obtenir une nouvelle prescription. La DEA s'y oppose, demandant le mois dernier l'aide de l'Organisation internationale de contrôle des stupéfiants. Nous parlons ici de transformer les enfants en toxicomanes pour que les parents puissent reprendre leur vie en main. Les médecins, s'ils croient avoir trouvé un traitement, ne prétendent pas comprendre complètement le trouble. Pour l'instant, les scientifiques savent que le TDAH n'est pas le résultat de lésions cérébrales. Ce n'est pas le résultat d'un mauvais régime. Écoutez ceci. Et ils sont sûrs que ce n'est pas le résultat d'un mauvais parent. Vous savez ce qu'est un mauvais parent? C'est celui qui donne la fessée à son enfant. Le docteur James Swanson, psychologue à l'Université de Californie, à Irvine, pense que cela peut être le résultat de quelque chose qui s'est passé dans la vie de l'enfant. Maintenant, il y a un vrai diagnostic scientifique. C'est peut-être le résultat de quelque chose qui manque à l'enfant. Un déficit. Exemple. Pendant la grossesse, tout ce qui va de la détresse fœtale à l'alcool, l'exposition au plomb in utero, en passant toutes ces choses pourraient être mesurées. Le docteur Lawrence Greenberg, un spécialiste du TDAH du Minnesota, estime que jusqu'à un quart des nourrissons prématurés survivants peuvent avoir le TDAH. Encore une fois, C'est une généralisation oblique. D'autres chercheurs accusent l'hérédité. Ils disent que vous l'obtenez de vos parents. Ils se rapprochent. Russell Barclay, chercheur sur le TDAH de l'Université du Massachusetts, rapporte que près de la moitié des enfants atteints du TDAH ont un parent, et plus du tiers ont un frère ou une sœur avec le trouble. Vous savez ce que cela veut dire? Si vous venez d'une famille sans maîtrise de soi, vous risquez d'avoir le même problème.
Si vos parents n'ont aucun contrôle de soi,
il est probable que vous non plus. Transformer les enfants indisciplinés en toxicomanes, c'est effrayant. Les enfants prennent habituellement 5 à 10 mg, 3 fois par jour, de ce médicament pour le travail scolaire. Ils prennent souvent des vacances de drogue, le week-end et tous les quelques mois. Où cela mène-t-il? Voici une illustration. Pierre Briget, un petit garçon de 7 ans. Pierre a essayé plusieurs drogues différentes
et autant de contextes de classe différents
au cours des 6 derniers mois. Le Ritaline n'a pas fonctionné. Le Silerte, une autre drogue, n'était pas mieux. Maintenant, l'imipramine, un antidépresseur, provoque des problèmes respiratoires. Mais cela semble le calmer. Sans une attention particulière des enseignants, il n'a pas encore démontré beaucoup de concentration. À quel point est-ce révélateur? Sans attention particulière, il a du mal à se concentrer. Que fait-il avec une attention particulière? Pierre passe la moitié de sa journée au PS 191 de Manhattan, dans une classe de plus de 20 élèves de CE1. Au cours d'une journée typique, il s'est assis sur son bureau, s'est dirigé vers la fontaine et s'est cogné la tête avec un classeur à 3 anneaux. Ses cahiers étaient remplis de griffonnages, décorés par intermittence avec des devoirs à moitié écrits.
Cela ressemble à tous les cahiers que j'ai eus à l'école. Je me souviens d'une fois où j'étais debout sur le bureau au milieu de ma deuxième année, à Rockwood, en Pennsylvanie, quand le professeur est entré dans la pièce. Je pensais qu'elle allait rester absente plus longtemps. « Il a perdu tellement de temps, » dit Millie Morales, la tante qui s'est occupée de Pierre depuis que sa mère est morte et que son père est allé en prison. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Pierre? Il n'a pas de mère et il n'a pas de père. Personne ne fait attention à lui et il ne peut pas rester concentré, à moins qu'on s'occupe de lui. Ce n'est pas une maladie. » L'article conclut en disant « Pour les chercheurs, c'est une situation classique. Payez maintenant ou payez davantage plus tard. » Des études indiquent que ceux qui ont un TDAH non traité sont plus susceptibles de devenir alcooliques, fumeurs ou toxicomanes que la population générale. Bien sûr, les personnes indisciplinées, sans maîtrise de soi, sont plus susceptibles de se comporter comme cela. Plus d'un tiers abandonne l'école, bien sûr. Et environ un dixième des adultes TDAH tentent de se suicider. Ce que vous avez, c'est un enfant dysfonctionnel, antisocial, mal aimé, coléreux, bouleversé, indiscipliné, sans maîtrise de soi, qui devient ce genre d'adulte. Une formule pour le désastre. Maintenant, au cas où vous voulez regarder la liste des diagnostics, je vais vous donner une liste de contrôle. Les professionnels fondent leur diagnostic de TDAH sur les lignes directrices suivantes. Et ils en donnent beaucoup. Il pourrait y en avoir une vingtaine. Et ils disent que s'il y en a 6 qui s'appliquent à vous, vous l'avez. Vous pouvez donc choisir vos 6. D'abord, il accorde peu d'attention aux détails. Il fait des erreurs d'inattention. Il a une courte durée de concentration. Il n'écoute pas quand on lui parle. Il ne suit pas les instructions. Il ne réussit pas à terminer les tâches. Il a de la difficulté à s'organiser. Il évite les tâches qui nécessitent un effort soutenu. Il perd des choses. Il est facilement distrait. Il oublie des choses pendant la journée. Il bouge beaucoup. Il se tortille sur son siège. Il quitte son siège quand il faut rester assis. Il court dans tous les sens. Il grimpe partout. Il a de la difficulté à jouer tranquillement. Il agit comme s'il était entraîné par un moteur. Il parle beaucoup. Il laisse échapper des réponses avant que la question soit posée. Savez-vous ce qu'ils décrivent? Tous nos enfants. Ne vous moquez pas de moi. Cela représente tous mes enfants, tous mes petits-enfants et moi-même. Je n'ai pas de maladie. Chaque enfant est comme cela s'il n'a pas appris la maîtrise de soi. Chaque bulletin que j'ai eu les premières années, et maintenant, je vous raconte les secrets cachés, les amis. Tous les bulletins que j'ai reçus quand j'étais petit pendant mes premières années d'école disaient la même chose. Johnny ne fait pas attention. Johnny parle trop. Johnny ne reste pas sur son siège. Johnny tripote et fait des bruits avec son crayon. Johnny manque de maîtrise de soi. Johnny ne fait pas de son mieux. Et chaque fois que j'ai pris une note comme cela, j'ai reçu une fessée. J'avais beaucoup de choses en tête, et je ne pouvais pas me concentrer sur une seule chose, parce que j'étais occupé par beaucoup de choses. Dieu m'a fait d'une certaine manière, m'a programmé pour faire face à beaucoup de choses. Et c'est ma vie maintenant. Je suis content que mes parents ne m'aient pas transformé en toxicomane. Je n'avais pas de maladie ou de trouble. C'était juste moi. Mes parents ont eu un énorme défi, m'enseigner la maîtrise de soi, parce que j'avais tellement d'énergie mentale et physique. J'ai encore beaucoup d'énergie, même maintenant. Et vous pouvez imaginer ce que j'étais avant mes 12 ans. J'étais une fusée qui allait dans toutes les directions. Mes parents ont travaillé très dur pour m'arnacher. Je suis si heureux qu'ils aient fait l'effort de faire cela pour que Dieu puisse utiliser les capacités qu'il m'a données. Ils m'aimaient, et ils m'ont donné des fessées. Ils m'ont enseigné la vérité de Dieu, en tout temps, par l'instruction et l'exemple. Et quand je ne l'ai pas respecté, ils m'ont discipliné, et j'ai appris le contrôle de soi. C'est une situation triste dans notre société. Tous ces psychologues et psychiatres courent en essayant de résoudre un problème qui ne peut être résolu que dans une maison où règne la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Et nous sommes appelés, parents, à apprendre à nos enfants à nous obéir. Et ce n'est pas seulement parce que nous avons notre propre programme indépendant, mais parce que nous leur enseignons la vérité de Dieu. Notre morale, notre éthique, nos valeurs et nos vérités sont celles de Dieu, et nous les transmettons. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est juste. Obéissez à vos parents dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? C'est pour l'amour du Seigneur, parce que vos parents vous enseignent les choses qui sont précieuses pour le Seigneur. Enfants, vous devriez obéir volontiers à vos parents. Vous devriez obéir inconditionnellement à vos parents. Vous devriez obéir à vos parents avec joie, parce qu'ils vous enseignent la vérité de Dieu. Et tous ces efforts qui continuent dans notre culture, tous ces efforts qui continuent à libérer les enfants de l'autorité parentale et à libérer les enfants de la punition physique sont désastreux et violent la loi de Dieu. L'année dernière, je suppose que c'était il y a quelques années maintenant, j'ai lu des statistiques. Elles dataient un peu. Les dernières statistiques, donc, à l'époque, 8 millions d'enfants par an attaquent leurs parents. Je cite un article dans le journal de l'éducation. Un enseignant mécontent démissionne avec le commentaire suivant. Dans nos écoles publiques aujourd'hui, les enseignants ont peur des directeurs. Les directeurs ont peur des surintendants. Les surintendants ont peur des membres du conseil. Les membres du conseil ont peur des parents. Les parents ont peur des enfants. Et les enfants n'ont peur de personne. Un étranger dans notre pays a dit que la chose qui l'avait le plus impressionné à propos de l'Amérique, c'était la façon dont les parents obéissaient à leurs enfants. C'est tragique. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Et pourquoi? Qu'est-ce que la Bible dit après? Car c'est juste. Qui le dit? Où est la preuve psychologique? Dieu dit que c'est juste. Et vous allez savoir que c'est juste en regardant autour de vous le désastre de cette culture quand les enfants ne le font pas. Dieu a dit de le faire. Dieu a dit que c'est juste, et il a écrit un livre là-dessus. À propos, une forme de ce mot juste, dikaios, apparaît 185 fois, rien que dans le Nouveau Testament. Dieu a établi ce qui est juste. Et bien sûr, c'est un élément majeur du problème des parents aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas ce qui est juste. Il n'y a pas de normes morales. Et comme nous l'avons appris, lorsque ses parents font des études universitaires, ils apprennent essentiellement qu'il n'y a pas de droit chemin. Et alors, comment pouvez-vous enseigner à votre enfant ce qui est juste s'il n'y a pas de droit chemin? Tout ce que vous pouvez faire, c'est empêcher votre enfant de vous embêter. Et pour beaucoup de personnes, le moyen le plus simple de le faire est de les droguer. Dieu a établi ce qui est juste, et en dehors de Dieu, vous ne pouvez pas savoir ce qui est juste. Néhémie 9, 13 dit. Dieu leur donna des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Psaume 19, 8 dit « La loi de l'Éternel est parfaite ». Psaume 119, 75 dit « Ô Éternel, que tes jugements sont justes ». Verset 128 « Je trouve juste toutes tes ordonnances ». et Osée 14, 9 dit « Car les voies de l'Éternel sont droites ». Romains 7, « La loi du Seigneur est parfaite ». Paul ajoute « Saint, juste et bon ». Et le seul moyen de bien élever vos enfants, c'est de les élever selon la parole de Dieu. Nous enseignons donc à nos enfants ce qui est juste. Nous les appelons à l'obéissance comme s'ils obéissaient au Seigneur, parce que nous leur transmettons sa parole, sa volonté. Nous ne le faisons pas seulement par instruction verbale. Nous ne le faisons pas seulement en leur lisant la Bible. Nous le faisons en étant l'exemple dans notre propre obéissance à Dieu. Et bien sûr, si vous essayez de l'enseigner, et si vous ne le vivez pas, la confusion est dévastatrice. Mais nous leur apprenons à obéir. Nous leur apprenons à obéir parce que c'est juste. Et vous voyez, nous avons une relation inhabituelle avec nos enfants. Écoutez ces pensées. La relation de l'enfant. Et nous avons une illustration graphique avec ces petites vies précieuses, ici ce soir. Donc, la relation de l'enfant avec Dieu passe par les parents. C'est comme cela que Dieu l'a conçu. L'enfant finira par s'éloigner des parents et construire une relation directe avec Dieu par le Christ. Mais tandis que ce petit enfant est sous notre toit, leur relation avec Dieu vient à travers nous. Quand un enfant désobéit à ses parents, il désobéit à Dieu à toutes fins utiles. Quand un jeune répudie ses parents, il répudie Dieu. C'est extrêmement sérieux. C'est pourquoi l'Ancien Testament dit « Quand un enfant fait cela, mettez-le à mort ». De même, un enfant qui lutte contre ses tendances rebelles naturelles et se soumet à ses parents, se soumet à Dieu, et cela porte une merveilleuse bénédiction. Dites-le à vos enfants. Ne dites pas simplement « Je veux que vous m'obéissiez parce que je vous l'ai dit et que je suis fatigué de vous le dire ». Dites-leur « Je veux que tu m'obéisses parce qu'en m'obéissant, tu obéis à Dieu, et obéir à Dieu signifie que tu seras béni ». Et dites-leur « Obéis-moi, parce que si tu ne m'obéis pas, c'est un manque de respect envers Dieu, dont je t'instruis dans sa volonté. Et si tu désobéis à Dieu, tu apporteras sur toi-même un jugement sérieux, un châtiment. C'est un concept merveilleux. Les enfants ont besoin de comprendre que la façon dont ils vous répondent est la façon dont ils répondent à Dieu lui-même. Ils ont besoin de comprendre les implications de leur désobéissance, parce que leur relation avec Dieu, qui est une relation spéciale, défini dans un passage que nous avons déjà lu dans Marc 10, montre que Jésus a pris ses petits sur ses genoux, les a touchés et les a bénis. Ils sont précieux pour Dieu, mais sa relation avec eux est médiatisée à travers vous, leurs parents. Ils ont besoin de comprendre cela. Ils ont besoin de savoir que leur plus grande responsabilité est envers Dieu, mais ils le manifestent par leur obéissance vis-à-vis de vous. De plus, de votre point de vue, un parent retire l'arbitraire, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas simplement lancer toutes sortes de commandements à vos enfants, sauf s'ils justifient un principe biblique. Je pense à l'histoire d'Absalom, dans 2 Samuel 13 à 18, l'histoire d'un fils rebelle. Son père, David, bien sûr, n'était pas un père parfait. Il n'avait pas réussi à discipliner son fils. Il n'avait pas discipliné Absalom. Alors qu'a-t-il obtenu? Il a un fils rebelle. Ni sa mère, ni son père ne lui ont appris à se maîtriser. Le demi-frère d'Absalom, Amon, a suivi l'exemple diabolique de son père David. Je parle du péché de David avec Bethsabée. David a fait cela, et Amon, son fils, a suivi l'exemple de son père et a violé la sœur d'Absalom, Tamar, dans 2 Samuel 11 et 13. Et David n'a rien fait pour le punir. Absalom n'était pas content que son demi-frère ait violé sa sœur. Alors il a tué Amon. Mais il a appris cela de son père qui a tué Uri, le Hittite. David a finalement agi par peur d'Absalom, pas par souci de paternité, mais plutôt par peur, et il l'a envoyé en exil, et il a toujours refusé de faire face à la situation, jusqu'à ce qu'il ait été forcé de le faire. David était un père faible et inefficace, et Absalom avait des raisons d'être hostile, hors de contrôle et en colère, mais malgré ces raisons, Absalom aurait dû se soumettre à David. Il aurait dû faire ce qui était juste. Il ne l'a pas fait. Ainsi, malgré un père défaillant, Dieu a tué Absalom, tout comme Dieu avait dit qu'il le ferait, avec les enfants rebelles. Nous parlons d'un problème très grave, l'enseignement de l'obéissance de vos enfants. Aussi, regardez le verset 2, la responsabilité d'enseigner le respect à vos enfants. « Honore ton père et ta mère, qui est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je ne traite pas seulement l'action en matière d'obéissance, mais l'attitude et le respect d'honorer. Exode 20:12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Concentrez-vous sur les commandements. Honorez votre père et votre mère. Non seulement l'obéissance à l'extérieur, mais l'obéissance de l'intérieur. L'obéissance basée sur le respect, la révérence et l'honneur. Non pas une obéissance égoïste, une obéissance amère, ni une obéissance réticente ou craintive, mais une obéissance aimante et respectueuse. Le mot honneur vient du verbe timao, signifie valoriser à un prix élevé, avec de la valeur. Valorisez votre père et votre mère, mettez un prix élevé sur eux. En d'autres termes, réalisez à quel point ils sont précieux pour vous. Les enfants doivent comprendre à quel point ils sont un trésor. C'est le premier commandement, avec une promesse. C'est le cinquième des 10 commandements dans Exode 20, mais c'est le premier commandement traitant des relations humaines. Les 4 premiers traitent de la relation avec Dieu. C'est le premier commandement qui traite de relations humaines, et parmi tous ces commandements, c'est le premier avec une promesse. La promesse est que tout ira bien pour vous, et vous vivrez longtemps sur la terre. Vous voulez une vie heureuse. Vous voulez une vie remplie. Obéissez à vos parents. Vos enfants ont besoin de savoir cela. Vos enfants doivent apprendre cela. Vous ne devez pas le cacher. Vous dites, cela pourrait les effrayer. Ça ne fait rien. Si c'est en équilibre avec la sécurité, l'affirmation et l'amour que vous leur donnez au nom du Seigneur, ils comprendront. Il est absolument essentiel, cependant, qu'ils sachent que Dieu promet la bénédiction et une longue vie à ceux qui lui obéissent, et que cette obéissance est médiatisée par leurs parents. Vous dites, pourquoi ce commandement est-il le commandement d'une promesse? De tous les commandements concernant les relations humaines, pourquoi est-ce si important? Parce que, bien-aimé, c'est le cœur de toutes les relations, c'est le cœur de la famille. Par conséquent, c'est au cœur de l'Église, et c'est donc au cœur de la société, toutes deux composées de familles. Une génération d'enfants indisciplinés, irrespectueux, rebelles et désobéissants détruiront les familles, les églises, les nations. Et quand vous avez un enfant désobéissant et irrespectueux, c'est une tragédie, à bien des égards, un chagrin terrible. Écoutez ce que dit les proverbes. Un fils insensé fait le chagrin de sa mère et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Certaines d'entre vous le savent, et vous le savez bien. Non seulement un chagrin pour la mère, mais écoutez ce qu'il dit à propos du père. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un imbécile ne peut pas se réjouir. Proverbe 19 dit « Un fils insensé est une calamité pour son père. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Il est un chagrin pour sa mère, un chagrin pour son père, une honte pour ses parents, une humiliation pour toute la famille, une détresse pour l'Église et un fardeau pour la société. Toute plénitude dans les relations commence là. Je vous ramène à Deutéronome 21, 18-21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de sa ville, et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Maintenant, vous pouvez dire que c'est au moins un adolescent, et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Ils prennent sa vie. Pourquoi? Parce que l'infection de la nation est dévastatrice. Une infection que nous éprouvons même en ce moment. Ainsi dit Deutéronome 21-21. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Vous voyez, Dieu savait que la préservation de cette nation était liée au processus parental, à l'obéissance parentale, à l'obéissance des enfants. Je pense que j'ai le temps de vous le dire ce soir. Ouvrez vos Bibles à 1 Corinthiens chapitre 7 et laissez-moi un peu sortir du sujet. Parce qu'il y a un problème que vous pouvez rencontrer si vous posez des questions à ce propos. Quelqu'un dit « Les enfants doivent obéir à leurs parents. » Puis il arrive à ce passage et il peut être confus. Laissez-moi lire les versets 36 à 38 et faire un commentaire ou deux. 1 Corinthiens 7, 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Maintenant, ce que vous semblez voir ici est un conflit. Un père qui veut garder sa fille vierge, et une fille qui veut se marier. Et le verset 36 dit au père, « Qu'elle se marie. » Alors la question se pose, « Attendez une minute, est-elle libre de contrer la volonté de son père et faire ce qu'elle veut ?» Et dans cette situation, permettez-moi d'expliquer le scénario. Dans la culture juive, les parents, en particulier les pères, avaient le rôle unique et dominant de décider qui épouserait leurs enfants. C'était la décision d'un père, et c'est normal. Je plaisante un peu, mais je suis quand même sérieux dans ce que je dis. La même coutume générale a prévalu dans beaucoup d'autres sociétés, et certainement celle de Rome. En fait, certains historiens, si vous avez lu l'histoire de Rome, certains historiens attribuent le déclin de Rome en partie à l'affaiblissement de la famille, et disent que la famille a commencé à s'affaiblir lorsque les parents ont cessé d'organiser des mariages. À l'époque du Nouveau Testament, le mariage arrangé était la norme. Maintenant, à la lumière de cet enseignement sur les avantages du célibat, dont parle 1 Corinthiens 7, ils ont appris qu'être célibataire pourrait être un avantage. Vous pouvez servir le Seigneur et honorer le Seigneur, et vous n'êtes pas distrait par le mariage et la famille. Et c'était merveilleux d'être célibataire pour le Seigneur. Et ainsi, certains pères bien intentionnés, qui étaient venus à Christ et étaient tout excités à l'idée de servir le Seigneur, avaient consacré leurs jeunes filles au Seigneur, en les incitant à rester célibataires, les dédiant en quelque sorte comme vierges pour toute leur vie. Mais quand les filles ont atteint l'âge de se marier, elles avaient une idée différente. Certaines d'entre elles voulaient se marier, et leur père se retrouvait en quelque sorte dans un dilemme à ce sujet. Devaient-ils rompre le vœu qu'ils avaient fait pour leur fille? Il est probable que beaucoup de filles n'avaient pas le don du célibat et luttaient avec leur désir naturel pour un homme. Elles voulaient se marier. Leur désir était de se marier, mais elles désiraient aussi plaire à leur père et plaire au Seigneur. Et le problème a été alors apporté à Paul dans la lettre aux Corinthiens. Paul dit simplement ceci, « Si la fille veut se marier, qu'elle se marie. S'il doit en être ainsi, verset 36, vous êtes libre de la laisser se marier. C'est bien. Vous aviez de bonnes intentions quand vous avez fait la promesse. Mais si elle doit se marier, qu'elle se marie. » Les versets 37 et 38 parlent de la fille qui n'a pas vraiment besoin d'être mariée. Et vous, en tant que père, vous pouvez rester ferme. Vous n'avez pas de contraintes. Vous n'êtes pas sous obligation. Verset 37. Vous n'avez pas votre fille qui tire sur la jambe de votre pantalon en disant « Papa, libère-moi de cela, je veux me marier ». Dans les deux cas, quel que soit le désir du cœur de votre fille à l'égard du mariage, il est acceptable pour Dieu. Je veux seulement mentionner ce passage parce que je sais que certaines personnes m'en ont parlé en disant « Oui, je sais que nous sommes censés obéir et honorer nos parents, mais il peut arriver un moment où nous avons besoin de quelque chose qui pourrait être contre la volonté de nos parents. Mais nous pensons que c'est bon pour nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Et ici, il y a l'illustration parfaite. Quand vous atteignez cet âge, s'il le faut, qu'il en soit ainsi. Et vous pouvez vous plier au souhait de votre enfant à ce moment-là. Et c'est certainement illustratif pour d'autres situations. Je ne pense pas que les parents, pour le reste de la vie d'un enfant, ont une sorte de démagogie, une sorte d'autorité autocratique et de contrôle sur eux, quand ils expriment leurs besoins dans le cadre des objectifs de Dieu. Nous sommes libres de les laisser suivre les besoins et les désirs du cœur. Revenons à Éphésiens et concluons notre discussion de ce soir. Vous vous rappelez que j'ai utilisé ce passage la semaine dernière, et j'espère que vous l'avez compris. Verset 3. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » C'est formidable. Cela dit deux choses. Il y aura une qualité de vie et une quantité de vie. Que vous soyez heureux, c'est la qualité de vie. Elle sera remplie, riche, joyeuse, heureuse, paisible, enrichissante, avec une bénédiction qualitative générale. Je le crois vraiment, mes amis. Je suis convaincu que c'est exactement ce que dit l'Écriture. Je regarde ma vie, et elle a été bénie abondamment. Et je regarde la vie de Patricia et la vie de nos enfants. Et je crois que dans une grande mesure, bien sûr, cela est lié à l'obéissance. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Non seulement la qualité, mais la quantité de vie. La vie, dit-on ici, sera longue sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que vous pourriez l'interpréter de trois manières merveilleuses. D'abord, physiquement. Je pense que vous allez vivre une vie remplie. Je ne pense pas que votre vie sera raccourcie, car les vies sont coupées par le péché, la désobéissance. Vous vivrez la vie entière que Dieu a planifiée. Deuxièmement, vous allez vivre une vie millénaire. Si vous suivez vos parents et que vous avez la foi en Jésus-Christ, vous reviendrez pour 1000 ans sur la terre, et finalement même, vous vivrez dans le nouveau ciel éternel et la nouvelle terre. Le plan est clair. Les enfants obéissent, les enfants honorent, et Dieu vous bénira. Et Dieu vous laissera vivre une vie remplie et riche. L'alternative est tragique. Je ferme avec cela. L'enfant est né le 12 novembre 1934, né de Kathleen Maddox, qui a 16 ans. Il a été inscrit dans les registres comme Maddox, sans prénom. Il était un enfant classique, maltraité, souvent abandonné pendant des jours par sa mère, les premières années de sa vie. En 1939, sa mère a été arrêtée pour vol à main armée et condamnée à 5 ans d'emprisonnement dans le pénitencier. Quand elle est revenue, son nom avait 8 ans. Sa vie devient un long défilé d'hôtels délabrés, et d'oncles brutaux qui venaient vivre avec sa mère et qui buvaient lourdement. Quand il avait 12 ans, sa mère a essayé de le placer dans une famille d'accueil, mais comme il n'y en avait pas de disponible, il a été envoyé dans un orphelinat pour garçons en Indiana. C'était le premier d'une longue série d'institutions de plus en plus restrictives. Après 10 mois en Indiana, il s'est enfui, mais sa mère ne voulait plus de lui. Il a ensuite dérivé dans une vie de crime. À 13 ans, il a été arrêté pour vol à main armée et condamné à une institution d'où il s'est échappé. À 16 ans, il a commis une longue série de crimes. Finalement, dans une prison fédérale, il a été agressé sexuellement et violé. À 17 ans, il a pressé une lame de rasoir contre la gorge d'un camarade et l'a sodomisé. Il a été transféré encore et encore et classé comme dangereux, avec un historique d'activité violente. Finalement, à l'âge de 33 ans, il a été libéré de la prison de Terminal Island, en Californie, contre son gré. Il était devenu obsédé par le satanisme. Il a dit à ses geôliers que la prison était sa seule maison. Maddox est mieux connu sous le nom de Charles Manson. Le bébé tendre de quelqu'un est devenu un monstre, le pire des cas. Le meilleur scénario nous est donné dans les vérités de l'Écriture. Enseignez à votre enfant les propos de Dieu et de sa loi. En tout temps, faites-le se conformer à cette loi. Et quand il n'obéit pas, punissez-le physiquement. Faites tout cela dans un environnement de douceur, de l'amour de Christ, et vos enfants seront votre joie. Père, merci pour l'instruction que tu nous donnes, si pratique, touchant tous les aspects de la vie. Seigneur, merci encore pour les parents merveilleux, les parents pieux, les enfants précieux, les petits-enfants. Seigneur, merci d'avoir enrichi nos vies, d'avoir fait de notre famille de tels havres de joie et de douceur. Merci, Seigneur, merci de nous avoir sauvés, de nous enseigner ces choses, afin que nos maisons puissent être des lieux si heureux, des endroits si merveilleux. Seigneur, cette église est remplie de familles fortes, de familles heureuses, de familles accomplies, parce qu'elles ont suivi ta vérité. Seigneur, puissions-nous continuer à être fidèles. Que nos enfants soient fidèles, pour que nous puissions élever une génération pieuse et profiter de la bénédiction, apprécier la qualité et la quantité de longues années de relations amoureuses qui nous apportent un tel accomplissement. Bénis nos enfants, bénis tous ces précieux petits que nous avons dédiés ce soir, et aussi tous les autres qui font partie de notre vie, tous ces précieux enfants, et puissions-nous tous être fidèles pour te les apporter, afin que tu puisses vraiment les bénir avec la grâce du Christ, au nom de qui nous prions. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.